15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à un témoignage, celui de Jeanne Demier. À 18 ans, on lui a diagnostiqué une maladie de Crohn. Un coup de massue à l'époque à l'annonce de cette maladie inflammatoire incurable. Mais elle a réussi à bouleverser ce diagnostic en s'écoutant. Pas de pilule miracle, c'est un cas exceptionnel. Elle a changé le contenu de son assiette et a remis en question tout son mode de vie. Et aujourd'hui, elle est guérie, elle nous racontera son parcours inédit. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une maladie assez fréquente à ce moment de l'année, la laryngite de l'enfant. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va parler des TROD. Ce sont les tests rapides de diagnostic du VIH. On fera un point sur ce dispositif de dépistage. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des jeunes femmes qui peuvent parfois appréhender leur premier rapport sexuel et surtout les douleurs que cela peut engendrer.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Léo, 35 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question hygiène bucco-dentaire. Je voulais savoir si il fallait se brosser la langue ou pas, parce que j'entends un peu tout et n'importe quoi là-dessus. Merci pour votre réponse.
C'est vrai, même dans les pubs pour les dentifrices, on voit les mecs qui se lavent la langue. Alors Jimmy, c'est une idée reçue qui perdure, mais est-ce qu'il faut vraiment se la brosser la langue tous les jours quand on se brosse les dents ?
Eh ben non, il ne faut pas, ça sert à rien et en plus ça peut être dangereux. Certains, comme vous Mélanie, le font, mais si, mais pour
c'est
la
faux,
mauvaise
vous
haleine.
Vous n'êtes pas là le matin quand je brosse les dents, je
oui,
fais
mais
jamais
mais
la langue.
Vous m'avez dit que vous avez des problèmes
d'haleine. Non, jamais de la vie.
En tout cas, certains pensent qu'en se frottant et en se brossant durement la langue, on aura une meilleure haleine. Et ben, c'est entièrement faux. Et en plus de ça, il peut y avoir des conséquences.
Alors, pourquoi, si les dents sont sales, j'imagine que la langue est sale aussi. Pourquoi ça serait dangereux? On se lave bien les dents 2-3 fois par jour et il ne se passe rien.
Oui, eh bien écoutez, la langue, ça ne nous a pas échappé que c'était plus fragile que les dents. Et que par conséquent, si on frotte la langue avec la même énergie qu'on frotte les dents, eh bien forcément, on va abîmer cette langue, et notamment les papilles gustatives qui permettent justement d'avoir le goût. Et ce qui fait qu'on va entraîner en plus des micro-inflammations, des lésions, qui peut être responsable de lésions. Et en plus de ça, vous allez déséquilibrer votre flore, car il y a ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qu'on trouve dans la cavité buccale, qui va être perturbée et qui va être peut-être responsable d'une mycose. Mmh. Donc bref, on ne se lave pas la langue, on ne se brosse pas la langue pour la laver.
Mais vous avez dit qu'il y avait plein de bactéries dans la bouche, c'est pas justement ça qui cause la mauvaise haleine ?
Eh bien non, ce qui cause la mauvaise haleine, c'est pas ces bonnes bactéries, c'est plutôt le tartre. Et les plaques dentaires entraînent ce qu'on appelle l'halitose. Et donc, il faut aller voir son dentiste lorsqu'on a des problèmes d'haleine, qui permettra de faire un détartrage et bien souvent de régler ce problème. Et on laisse la langue tranquille.
Et donc, jamais, 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 on brosse cette langue.
Si, vous pouvez le faire de temps en temps. Si vous voulez brosser laver votre langue correctement, il suffit de la frotter le long du au-dessus du palais. Ça permet simplement de la nettoyer. Il n'y a pas besoin de plus. Et de temps en temps, si vous le voulez, vous pouvez la faire, mais de façon ponctuel et surtout pas très énergique.
Merci beaucoup Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Lola, 28 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, je suis maman d'un petit garçon, il a 7 ans et il est myope. Je voulais savoir s'il fallait qu'on fasse suivre sa myopie de manière très régulière. Est-ce qu'il faut que j'aille voir un ophtalmo tous les ans, tous les 3 ans? À quelle fréquence? Voilà, merci beaucoup.
Alors Lola, elle a un petit garçon donc, qui est myope, qui a à peine 5 ans, et donc ce suivi pour la suite, il vient d'être diagnostiqué, c'est très régulièrement, elle demande tous les ans, c'est même peut-être plus que ça, non Jimmy ?
Alors déjà, il ne faut pas attendre qu'un enfant se plaigne de sa vue pour l'amener chez l'ophtalmo. Il faut que les enfants aillent voir un ophtalmo dès l'âge de 1 ou 2 ans, de façon systématique, à titre de dépistage. On a parlé tout à l'heure des dents, mais pour les yeux, c'est exactement la même chose. Amenez voir votre enfant pour une consultation de contrôle chez l'ophtalmo avant qu'il y ait une myopie. Là, on parle de Lola qui a 5 ans et qui a cette myopie.
C'est l'enfant donc, de Lola qui a 5 ans, Lola.
L'enfant de Lola, pardon, excusez-moi, l'enfant de Lola, pardonnez-moi. Elle a 5 ans et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une myopie survient avant l'âge de 12 ans, eh ben, elle tend à s'aggraver plus rapidement. Ce qui veut donc dire qu'il faut contrôler cette vision un peu plus que dans la population générale. Là, on estime que dans ces cas-là, il faut y aller plus souvent parce qu'il y a un risque supplémentaire.
Et donc pour son fils, là, le rendez-vous chez l'ophtalmo, ça va être tous les combien? Vous dites plus souvent, c'est quoi?
Alors ça, c'est l'ophtalmo qui va vous dire. C'est pas à nous de dire, on va y aller deux, trois fois exactement. Chaque cas est différent, ça dépend de la myopie, ça dépend des antécédents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si un enfant est myope, il est souvent pour des raisons héréditaires. On estime qu'un enfant a deux fois plus de risques de devenir myope si l'un des parents l'est, et on estime ce risque à multiplier par, est multiplié par 3 si les deux parents sont myopes. Donc si vous avez des myopies dans la famille, que vous êtes myope, que le mari est myope, et ben amenez chez votre enfant chez l'ophtalmo, il a un risque et donc il faut dépister pour traiter.
Bon, et du coup, vous allez peut-être répondre à ma question. Tous les combien elle va chez l'ophtalmo?
Quel suspense, c'est un teasing c'est insoutenable. J'ai fait du spectacle avant
c'est
la médecine
ça,
et donc l'idéal, c'est d'y aller tous les 6 mois. On estime que c'est un délai acceptable et puis il faut surtout que la correction soit adaptée et on n'hésite pas à recontrôler après avoir mis les lunettes pour être sûr que l'enfant tolère, que la vue ne s'est pas dégradée. Bref, on estime entre 6 mois et parfois 1 an. Je rappelle qu'une myopie non traitée tend à se dégrader et qu'il ne faut pas attendre que l'enfant se plaigne pour consulter.
Et chez les tout-petits, je crois qu'on peut mettre aussi des lentilles, hein, parfois, pas forcément que des lunettes justement, quand c'est myopie très jeune. Là.
Exactement, c'est possible, ça reste marginal car le port est souvent compliqué. C'est des lentilles très spéciales, bien différentes de celles que nous on utilise au quotidien. Mais oui, c'est possible, notamment chez les enfants qui ont du mal à garder les lunettes, mais ça reste encore marginal à ce stade.
Et c'est vrai qu'actuellement, on parle de... Parce que là, donc, c'est un petit enfant myope, a priori 5 ans, c'est parce que sûrement ses parents le sont aussi, mais est-ce que c'est vrai qu'il y a une épidémie de myopie chez les enfants, même un peu plus grands peut-être?
Oui, et souvent on attribue ça aux lumières bleues. On dit que les lumières bleues rendent myopes. C'est pas les lumières bleues qui rendent myopes, c'est le fait de laisser les enfants sur les tablettes, sur les écrans. Ils ne sortent plus dehors. On avait reçu une ophtalmo qui nous explique que la meilleure prévention de la myopie chez l'enfant, c'est de les mettre dehors dans un parc pour que leur œil s'habitue à regarder au loin et pour qu'ils accommodent de façon plus lointaine. De la même façon qu'on a une épidémie de myopes, notamment chez les étudiants. Moi-même, j'étais myope parce que j'étais un grand étudiant érudit. Et donc, je passais beaucoup de temps à lire. Et donc, forcément, comme on a le nez plongé sur une très courte distance, eh ben, on développe une myopie. Donc, faites sortir les enfants dehors. Et puis, ceux qui font des études, bah, essayez de vous aérer quand vous pouvez.
Allez, tous les enfants dehors et Jimmy dehors aussi, puisqu'il est myope. Alors, si vous aussi, comme Lola qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la laryngite. Et puis, on accueillera aussi notre invitée, c'est Jeanne Demier, qui vient nous raconter comment elle a réussi à combattre sa maladie de Crohn en changeant de mode de vie et grâce à une meilleure alimentation. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée Jeanne Demier qui va nous raconter sa victoire contre la maladie de Crohn. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de la laryngite. D'abord, c'est quoi?
Alors la laryngite de l'enfant, c'est une inflammation de la muqueuse du larynx qui est due à un virus. Donc la laryngite est principalement virale. Corollaire de ça, on n'a pas besoin d'antibiotiques pour traiter une laryngite, on en parlera juste après. Plusieurs virus peuvent être en cause, mais globalement, c'est les virus du groupe parainfluenza qui peuvent donner des syndromes grippaux, qui peuvent donner en gros une rhinopharyngite, qui sont les plus fréquents. Globalement, lorsque une laryngite arrive, il y a un œdème qui se forme au niveau du larynx, sous la glotte, qui rétrécit ce qu'on appelle la lumière laryngée. C'est l'espace dans lequel les cordes vocales sont et l'air passe, ce qui veut donc dire que ça modifie le son de la voix et qui fait que les enfants ont une voix un peu bizarre. Elle survient plutôt en automne, donc c'est la saison, même si on peut en voir toute l'année. Et c'est une infection ORL très fréquente, notamment chez les enfants de 1 à 3 ans. Elle est un peu plus rare chez l'adulte.
Et alors, quels sont les symptômes? J'imagine que la voix, tout de suite.
Exactement, la laryngite, donc l'atteinte des cordes vocales, du larynx, donne une voix enrouée. Et puis surtout, elle est responsable d'une toux très particulière que les parents connaissent une fois que leur enfant l'a eue. Une toux rauque, aboyante, souvent comme un chien qui aboie ou comme un phoque. Plutôt nocturne, elle survient souvent à 4h, 5h du matin et elle peut être responsable d'une difficulté respiratoire. L'enfant a du mal à respirer car l'air passe moins bien, alors que finalement c'est juste de l'inflammation du larynx.
D'accord, et je crois qu'il ne faut pas confondre laryngite et épiglottite. Hein.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est et comment on fait la différence?
Alors, l'épiglottite, c'est une infection qui est plutôt bactérienne cette fois-ci, qui est due à l'Haemophilus influenzae. Donc c'est une bactérie qui a quasiment disparu du fait de la vaccination. Et en fait, cette épiglottite, elle est beaucoup plus sévère, elle est responsable d'une forte température. L'enfant a souvent 39-40, il a du mal à avaler et à inspirer. Alors que dans la laryngite, il a juste du mal à expirer.
C'est ça,
là, il arrive à déglutir, mais là dans l'épiglottite, il n'y arrive pas. Et c'est un enfant qui salive énormément, qui bave, qui respire la bouche ouverte et qui est obligé de rester assis. Dans ces cas-là, faut absolument appeler le 15.
Alors on parle de la laryngite, du coup aujourd'hui on fait quoi en cas de laryngite?
Alors une fois que l'enfant a la laryngite, souvent l'enfant il se réveille brutalement, il est assis au bord du lit, il faut le laisser assis. On n'allonge pas un enfant qui a la laryngite, on va majorer ce spasme laryngé, il va être encore plus gêné. On n'hésite pas à lui donner du paracétamol s'il a la température ou s'il a mal, car la laryngite fait mal. Et puis il y a une astuce que je donne souvent aux parents, si ça survient à 5h du matin, avant de foncer aux urgences, on va dans la salle de bain, on ouvre le robinet d'eau chaude ou le pommeau de douche, alors on ne met pas l'enfant sous l'eau chaude, et on le laisse respirer les vapeurs d'eau chaude.
Juste la vapeur,
ça permet un peu de dilater les bronches, et puis souvent ça permet de passer le cap aigu. Dans certains cas, le médecin prescrit des corticoïdes pendant 48 à 72 heures, et évidemment, si votre enfant a une gêne respiratoire, on se présente aux urgences et on appelle le 15.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est Jeanne Demier, elle est l'auteur du livre « Pour en finir avec Crohn » paru chez Flammarion.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous nous livrez un témoignage, celui de votre combat contre la maladie de Crohn. Combat que vous avez gagné. Vous, cette maladie, elle vous est tombée dessus à l'âge de 18 ans, donc très jeune. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, ce diagnostic.
Exactement, elle est arrivée très jeune. En même temps, c'est une maladie qui frappe les jeunes, et d'ailleurs de plus en plus jeunes, voire aujourd'hui les enfants. Elle est arrivée insigneusement par beaucoup de symptômes extra-digestifs, hein, d'abord, beaucoup de douleurs articulaires, beaucoup de problèmes et de maux de peau avec presque l'impression d'être assez défigurée, eczéma, psoriasis, dermite séborique, beaucoup de choses qui m'handicapaient depuis petite. Et tout d'un coup, effectivement, de violentes crampes abdominales, de mon côté, beaucoup de nausées. Et le diagnostic est arrivé quelques mois après, lorsqu'on a commencé à faire des examens plus poussés, où on m'a diagnostiqué une maladie de Crohn, donc une maladie inflammatoire chronique.
Jimmy ?
Et puis forcément, on vous a proposé des médicaments, parce que c'est ce qu'on propose dans la maladie de Crohn.
Tout à fait.
Et vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas. Quel a été le déclic ? Parce que souvent, les patients, lorsqu'on propose un traitement, on leur propose un deuxième, puis un troisième, et puis on fait un peu le tour des spécialistes et des traitements. Vous, quel a été le déclic pour vous dire « Non, il faut que j'aille voir ailleurs ».
Alors, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai quand même été suivie avec différents traitements. Je suis allée jusqu'aux traitements qui sont les immunosuppresseurs, hein, avec de l'Imurel. Et en fait, c'est au bout de 2 ans que j'avais vraiment le sentiment de tourner en rond, de devenir effectivement asymptomatique, d'avoir des phases de poussée, de rémission, de poussée, de rémission, de mettre la maladie en fait en somnolence, mais de ne jamais aller au-delà du symptôme. Donc, j'étais extrêmement fatiguée parce que la fatigue est omniprésente dans la maladie de Crohn. Et j'avais l'impression de passer à côté de beaucoup de chose, de ne pas avoir le dialogue suffisant avec mon médecin, de ne pas lui dire ce que je ressentais, et surtout à chaque fois que je questionnais sur est-ce que ça peut avoir un lien avec ce que je mets dans mon assiette, avec ce que je mets dans ma bouche, on m'expliquait que ça n'avait rien à voir, qu'il fallait surtout continuer à manger comme je le voulais. Or, l'alimentation que j'avais à l'époque, plus je grandissais et plus je devenais adolescente, plus elle devenait décousue, artificielle, dénaturée.
Et le déclic ?
Et le déclic, c'est surtout une énième consultation avec un énième professeur, parce que c'est tout un pataquès. Et puis, je suis arrivée dans un couloir de gastro-entéro avec un distributeur de soda, de bonbons, de gâteaux. Et là, effectivement, j'ai compris que pour moi, en tout cas, il y avait une faille dans ce système.
Alors, Jeanne, on va poursuivre cette discussion autour de votre témoignage dans un instant. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, Jeanne Demier va nous expliquer comment elle s'y est prise très concrètement pour tout changer dans sa vie, dans son assiette, et comment tout ça a pu entraîner sa guérison. On vous dira tout, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé-Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, Jeanne Demier, qui nous raconte aujourd'hui comment elle a bouleversé le cours de sa vie, de sa maladie, surtout la maladie de Crohn, sans pilule miracle, mais avec une nouvelle philosophie. Alors Jeanne, pour bien comprendre l'impact positif qu'a eu votre changement de mode de vie sur votre maladie, il faut d'abord comprendre comment ça agit, la maladie de Crohn. Hein. Et vous, pour bien comprendre tout ça, vous avez commencé par lire beaucoup, vous documenter, pour comprendre ce que c'était que cette maladie, c'est ça ?
Effectivement. Alors oui, il y a eu beaucoup de choses. J'ai commencé à m'intéresser aux médecines douces, à l'alimentation, à la nutrition. Donc je suis allée chercher des livres en anglais, en français, des vidéos, des tutos explicatifs sur qu'est-ce que c'était que l'inflammation, finalement ses origines, pour essayer de me détacher de l'idée de juste c'est un mal de ventre et c'est un organe qui est touché. Mais en fait, l'inflammation, elle peut toucher n'importe quel organe. Et comme j'avais beaucoup de soucis aussi au niveau de la peau notamment, et donc en externe, et que j'avais fini par faire le lien finalement entre ces douleurs articulaires, cette peau complètement inflammée et mes maux de ventre, il a fallu que je comprenne ce que c'était que l'inflammation.
Jimmy ?
Et j'ai cru comprendre que le jeûne thérapeutique, en tout cas les constats du jeûne thérapeutique, a pu vous aider sur notamment ce qui se passe au niveau digestif. Globalement, si on se met au repos, on met aussi en repos le tube digestif en ne mangeant moins ou pas ?
Oui, alors c'est, il faut faire attention effectivement avec le jeûne parce que dès lors qu'il y a des troubles du comportement alimentaire et puis ça peut être un peu violent quand on a déjà une maladie de dénutrition comme le Crohn. Dans mon cas, ce que j'essaye vraiment d'expliquer dans ce livre, c'est que j'étais un peu dans un processus de gavage. D'abord, je faisais beaucoup d'hyperphagie, qui est un trouble du comportement alimentaire dont on parle peu, qui consiste à avaler des quantités de nourriture énormes sans se faire vomir, et puis des phases de restriction intense, et puis vice-versa. Et puis surtout, je vivais dans un monde où quand, dès que j'étais malade, mes parents me forçaient finalement à manger même le soir. J'ai commencé par faire ce qu'on appelait un peu de jeûne intermittent, c'est-à-dire à savoir dire stop et à ne pas, par exemple, simplement dîner. Donc faire une pause alimentaire et un jeûne, par exemple, juste de 8 heures. Et je me rendais compte au réveil, non seulement que j'étais pas morte, mais qu'en plus, ça allait beaucoup mieux et que ça me permettait en fait de régénérer la muqueuse intestinale doucement. C'est un peu comme quand vous laissez une plaie cicatriser seule pour ensuite replanter les bonnes graines. Donc faire un vrai temps de pause au lieu d'essayer dès le départ de se bourrer de compléments alimentaires pour soigner, pour trouver une pilule qui va soigner telle pathologie en fait.
Pour comprendre un peu votre parcours, il faut remettre aussi un petit peu dans le contexte Crohn et les autres maladies inflammatoires. Finalement, ça concerne beaucoup de gens. Hein. Combien de personnes sont concernées ?
Alors, les maladies inflammatoires en France, c'est 15 millions de personnes.
C'est énorme.
Les MICI concerneraient, les derniers chiffres, c'est 250 000. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de cas qu'on n'a pas encore diagnostiqués.
Ce sont les maladies inflammatoires qui sont dans l'intestin.
Tout à fait. Toutes les MICI, ce sont vraiment les maladies digestives. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai fait un chapitre qui s'appelle « Demain tous malades », il y a beaucoup de gens qui ont aussi simplement mal au ventre ou qui sont fatigués chroniquement et qui ne savent pas d'où ça vient.
Jimmy ? Moi je suis convaincu que, alors, avec ce que vous proposez, on ne va peut-être pas guérir toutes les maladies de Crohn, toutes les rectocolites hémorragiques, mais qu'on va peut-être améliorer le quotidien de certains. Alors c'est sûr que des patients qui ont 20 ans de maladie derrière, on pourra ne pas revenir en arrière, mais qu'on peut améliorer le quotidien de tous ceux qui souffrent en allant un peu mieux et peut-être prendre un peu moins de médicaments.
Oui, alors exactement. Moi, il faut savoir que je me suis prise très tôt. J'avais 20 ans, j'ai eu un gros déclic et j'ai eu une espèce de force et d'énergie qui m'a poussée à faire les choses au bon moment.
Et à fond.
Et j'étais pas encore passée par la case chirurgie et je suis passée à travers beaucoup de choses. Donc j'ai eu entre guillemets une bonne étoile là-dessus. Moi, c'est aujourd'hui plutôt un message vraiment de prévention parce que j'ai bien conscience, et d'ailleurs je fais témoigner une autre personne dans mon livre qui a 20 ans de médicaments derrière elle, des chirurgies de tous les côtés, qui va aujourd'hui mieux, mais qui effectivement n'en est pas guérie. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quoi qu'il arrive, le mode de vie est capital. Aujourd'hui, on le reconnaît vraiment comme très important dans les maladies, dans la maladie de Crohn. Et donc, les médicaments ne suffiront pas.
Pour avancer aussi dans votre cheminement, il a fallu que vous compreniez comment fonctionnait la digestion et les pouvoirs de la mastication aussi. Ça, c'est très important.
Très important, oui, parce que j'avais ce qu'on appelle une perlèche au coin des lèvres. Donc, vraiment une première inflammation avec des ulcérations aux commissures de la bouche. Et j'ai vite compris que la bouche était vraiment le début du tube digestif et que donc, à force d'avaler tout ce que je mangeais, de ne pas mastiquer, je bloquais en fait toute la chaîne de digestion, donc je me suis remise à mastiquer. Évidemment, encore une fois, ça ne suffit pas, mais ça a fait partie des toutes petites clés mises bout à bout qui ont fait que j'ai, avec des gestes simples, j'ai évolué très vite dans le bon sens.
Jimmy ?
Je vois souvent des patients qui sont demandeurs de compléments alimentaires sans vouloir changer leur mode de vie et leur régime. Vous, ça ne vous a pas traversé l'esprit de dire je vais prendre des compléments et puis je vais continuer à faire ce que je fais ?
Bien sûr qu'avant la maladie, ça me traversait l'esprit, notamment pour mincir, parce que j'associais la santé à la minceur, donc pour avoir des plus beaux cheveux, une plus belle peau. Donc j'avalais des gélules toute la journée, alors que en fait, je n'assimilais quoi qu'il arrive rien du tout, puisque ma digestion n'était pas bonne. Et j'ai vite compris qu'avant même de se concentrer sur des compléments et des pilules extérieures, il fallait plutôt aider déjà à l'intérieur ce qui se passait et revenir à une alimentation saine, brute et biologique et s'aider de l'aliment comme premier médicament.
Alors vous, l'un des premiers changements, ça a été justement de supprimer les sucres, hein. Ça a été important.
Oui, alors ça va plus loin que ça, supprimer le sucre, effectivement, mais c'est beaucoup plus général que ça. Finalement, la première grande étape qui a été la plus difficile et qui l'est toujours, je tiens à le préciser parce que c'est très difficile de faire face aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, ça a été de sortir de la grande distribution des sucres. Supermarché, de tout ce qu'on me propose de façon facile et de revenir finalement à des produits de saison bruts, de me remettre en cuisine, de redécouper, de refaire cuire, de revoir mes modes de cuisson. Ça c'est la première grande étape et la plus difficile.
Alors Jeanne, on n'a pas terminé avec vous, surtout vous restez. Europe 1. Dans un instant, Jeanne Demier, qui est atteinte de la maladie de Crohn depuis l'âge de 18 ans, va continuer à nous détailler tout ce qu'elle a changé dans son mode de vie pour guérir. On a déjà vu un peu quelques aliments, le sucre qu'elle a banni, mais elle va bientôt nous en dire plus sur ceux qui remplissent aussi maintenant son assiette et qui l'ont aidée donc dans ce chemin de la guérison. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée Jeanne Demier, auteure de Pour en finir avec Crohn chez Flammarion. Alors il y a quelques minutes, Jeanne, vous nous avez expliqué comment tous les aliments industriels finalement, puis les sucres par exemple, hein, sont inflammatoires pour notre tube digestif, surtout quand on a une maladie de Crohn. Mais maintenant, on voudrait en savoir plus sur ceux qui les ont remplacés finalement dans votre assiette, ceux qui vous ont aidé à guérir selon vous. Je crois que ça passe notamment par tout ce qui est riche en flavonoïdes. Expliquez-nous ce que c'est et dans quoi on en trouve.
Alors, effectivement, tout ce qui va être emballé, etc., j'ai retiré. En fait, je suis revenue à des choses très simples. Ça a été en deux étapes parce que je rappelle qu'au début, il y a un problème d'assimilation. Donc, vous ne pouvez rien manger hein, sans le recracher. Donc, j'ai démarré par des soupes, des compotes et des jus à l'extracteur où j'ai écarté au maximum le fibre et j'ai été un petit moineau qui petit à petit a repris des forces. Mais quelques mois plus tard, j'ai commencé à réintroduire des légumes très colorés, effectivement, la betterave, à refaire énormément de jus de légumes, à travailler avec voilà, des produits de saison et à tout faire moi-même.
Les flavonoïdes, c'est quoi ?
Les flavonoïdes, c'est ce que vous allez trouver dans les produits très colorés comme la myrtille, etc. C'est très antioxydant, en fait. Et c'est tout ce qui va être très coloré, ça va venir vraiment protéger le côlon. Donc, j'ai travaillé avec ça, mais j'ai travaillé globalement avec une alimentation qui n'est plus raffinée du tout. Après,
vous ne mettez plus jamais les pieds dans un supermarché ?
Non.
Jamais ?
Jamais. Sauf si j'ai des amis qui me le demandent. Ça a été très difficile.
Va m'acheter un coca, Jeanne, et là,
je tiens vraiment à rappeler que là, je ne veux pas qu'on pense que c'est simple de se soigner en mangeant. Au contraire, ça a pris du temps. Ça ne s'est pas fait en un jour. Aujourd'hui, oui, c'est vrai que quand je retourne au supermarché, c'est si je suis en week-end avec des amis et qu'ils m'emmènent là-bas, mais je ne vais plus dans les grandes surfaces.
Mais vous achetez où ?
Je me lève plus tôt, je me couche plus tard, ça demande plus d'énergie, mais je vais chercher dans des marchés locaux, je fais des commandes de paniers, je vais plus loin, je me renseigne, je vais parler avec les gens.
Les œufs, par exemple, vous les achetez où ?
Alors, les œufs, par exemple, je vais au marché, mais je m'assure de la traçabilité des œufs, je veux être sûre que ce sont des œufs de poule élevés en plein air. J'en mange moins parce que du coup, ça coûte beaucoup plus cher, donc j'ai réduit effectivement ma consommation de produits animaux de façon logique parce que je veux de la qualité et je réfléchis plus en termes de quantité. Et puis, c'est vrai que j'ai une alimentation, moi, qui me convient beaucoup plus végétale. Il y a des gens à qui ça ne conviendra pas du tout parce qu'elle sera trop fibreuse. Ça, il faut s'adapter selon les terrains et la digestion de chacun.
Jimmy ? Et tous ces changements, vous dites que vous n'allez plus en supermarché, vous faites finalement des petits commerces de proximité. Donc, c'est bien pour la planète en plus, mais ça a quand même un coût, non ? Est-ce que ça ne coûte pas très cher ? Est-ce que tout le monde peut se permettre
alors,
de faire ça dans un contexte
très intéressant,
difficile.
Oui, pardon de vous avoir coupé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, j'ai fait des investissements, notamment dans des choses que j'avais pas du tout, mais par exemple des outils pour cuisiner,
notamment un
cuiseur vapeur pour cuire à vapeur douce, pour respecter finalement, pour ne pas dénaturer les produits, puisque j'achetais.
Vous avez jeté vos poils, quoi, en gros.
Exactement, tout ce qui était micro-ondes, etc. Donc au début, j'ai eu l'impression d'investir énormément, et je me suis dit mon Dieu. Et en fait, à force de faire les choses moi-même, même si j'achète des produits bruts qui au début me coûtent plus cher, il faut savoir que je mange trois fois moins qu'avant. D'accord ? Je sais ce que c'est que l'hiver de boire de la soupe de légumes tous les soirs.
Vous en faites un soir et vous en avez pour...
J'en fais pour une semaine entière. Donc en termes d'économie, ça, c'est génial.
Mais c'est pas triste un peu de manger tous les soirs la même chose ?
Mais non, c'est pas triste parce que l'alimentation n'est pas la seule source de plaisir. En fait, j'ai aussi transféré d'autres choses. Moi, est-ce que c'était pas triste de me taper un paquet d'Oreo à l'âge de 19 ans, d'en prendre même 2, 3, 4 ? Je peux vous assurer qu'après, oui, j'étais triste quand j'avais un pic, une montée et puis une descente. Enfin, c'est pas forcément. C'est là où on place les
désirs
et les curseurs. Mais bien entendu, il faut savoir. Je sais aussi me faire plaisir de temps en temps. Je vous dis pas que je bois que de la soupe aujourd'hui. Je fais des assiettes très riches, très colorées, avec des choses. J'ai la chance de pouvoir manger cru, donc j'en profite. C'était pas le cas au début de ma maladie. Il y a du vert, du rouge, du bleu, du jaune. C'est dans
c'est
tous les sens.
Gay, en fait,
c'est hyper
même.
Gay. Ouais. C'est hyper rassasiant. C'est hyper nourrissant. On a
et
l'impression
savoureux.
De et savoureux. Ça tient des heures au corps, ce qui n'était pas le cas avant, parce que j'avais une alimentation très chimique. Donc au bout de deux heures, même si j'ai l'impression de manger très gras, très sucré, j'avais refaim.
C'est vrai qu'après un fast-food, on se sent bien plein, mais finalement, deux heures après, on a faim. Hein.
Exactement.
Donc voilà, donc est-ce que ça coûte plus cher finalement, moi, j'ai plutôt fait des économies à terme, en fait.
Oui, puisque les plats industriels
plus
sont plutôt
sucre,
chers.
Oui.
Mais moi, j'ai une position assez radicale désormais sur la viande, je fais très attention, j'en mange moins, mais j'essaie de manger vraiment de la viande de meilleure qualité. Vous, quelle est votre position par rapport à la viande et vis-à-vis de la maladie surtout ?
Ma position, c'est que je veux surtout pas dire à des personnes qui ont une maladie inflammatoire chronique, telle qu'un Crohn, il faut absolument être tout végétal et arrêter la viande. Au contraire, je pense que vraiment, il y a des gens à qui ça va réussir, d'autres pas du tout. Ce qui est certain, c'est que comme vous le dites, on ne peut pas continuer à manger des animaux qui eux-mêmes sont nourris aux antibiotiques ou nourris à du maïs bourré d'OGM, etc. Puisqu'il faut vraiment être dans une logique où tout ça est une chaîne. Donc si vous le mangez, si vous mangez ces œufs, vous absorbez les mêmes produits toxiques. Et je crois qu'il y a vraiment, c'est ce que j'essaye de faire dans le livre aussi, un lien avec nos sols, un lien avec nos animaux. On est tous une chaîne et si on ne se respecte pas tous, bah c'est le début des ennuis. Et toutes ces maladies-là qui sont en train d'exploser, on commence vraiment à faire le lien finalement avec cette alimentation hyper industrielle, avec des modes d'élevage intensifs qui n'a plus de sens.
Il y a aussi quelques super aliments qui vous ont aidé. Le chardon, alors ça, moi, je n'avais jamais entendu parler. Je ne savais même pas qu'on pouvait manger le chardon.
Oui, alors c'est quand
et
même
les
rare.
Algues. C'est,
tout
c'est
ce
quoi
qui est. Alors attention, hein, parce
qu'est-ce que vous trouvez bon là-dedans?
C'est un dialogue que j'ai fait avec un grand spécialiste des sols qui s'appelle George Oxley, qui parle de l'avenir finalement des algues qui sont des éléments super protéinés, encore très protégés, beaucoup moins pollués que certains poissons. Et ça va peut-être être une source très importante pour renourrir la planète. Bah, d'ailleurs, on parle beaucoup de spiruline. Hein,
bien sûr,
mais il y a
vrai.
Plein d'autres types d'algues qu'on trouve en Bretagne. On en fait des tartares, etc.
Vous en consommez beaucoup, vous ?
Moi, les algues, oui, parce que je suis originaire de Saint-Malo, mais je sais que ce n'est pas évident
d'en trouver.
Ouais. Le chardon, effectivement, qui est une fleur, mais qui sera plus rare. Je crois que surtout, on peut revenir à des choses plus simples. Pour moi, la soupe au food, c'est le cassis, la betterave, par exemple. Vous n'avez pas besoin de prendre cette tendance qui est l'açaï, qui vient du Brésil. On a beaucoup, beaucoup de choses et tout ce qu'il faut sur nos terres, ici, pour se soigner.
Jimmy ?
Vous dites aux personnes qui viennent d'être diagnostiquées d'une maladie de Crohn, d'arrêter les yaourts et les laitages et surtout ceux qu'on achète en supermarché. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Effectivement, alors c'est ce que j'ai donné la parole à mon naturopathe dans le livre qui fait tout un protocole. On sait aujourd'hui de sources sûres que tous les produits laitiers, la manière dont c'est fait aujourd'hui, c'est extrêmement indigeste. Beaucoup de gens se plaignent et c'est exactement la même logique que tout ce que vous trouvez dans ce type de supermarché. De toute façon, les vaches sont mal nourries, maltraitées et ce ne sont pas des produits qui sont comme on pourrait le croire et comme certaines marques pourraient nous
bon
pour le tube digestif. Au contraire, ça va plutôt venir lancer l'inflammation, la nourrir. Donc c'est vrai que tout ce qui est produit laitier, c'est reconnu comme pro-inflammatoire dans la maladie de Crohn.
Il n'y en a pas des bons que vous pouvez acheter ailleurs ?
Tout peut être bon. Si vous me trouvez une vache nourrie à l'herbe avec où je peux boire son lait, etc., je vous dis oui. Le
vous
problème
mangez encore
aujourd'hui,
quelques yaourts comme ça, justement ?
Non, moi plus du tout, mais parce que je n'ai pas l'occasion en ville. C'est aussi, c'est un combat aussi que je mène dans ce livre et j'essaye de passer un vrai cri d'alarme parce que ce n'est pas drôle. Je me rends compte que bien manger est un luxe. Je ne sais pas si pour mes enfants comment ça va se passer, en tout cas si je vais en faire. Et du coup, moi, j'ai finalement réduit énormément les produits animaux parce qu'aujourd'hui, pour avoir de la qualité, je suis obligée de faire beaucoup plus d'efforts et d'être beaucoup plus attentive.
Le pain et le gluten, alors qu'est-ce qu'on en dit ?
Le pain et le gluten, j'ai fait tout un sujet effectivement dans le livre là-dessus parce que tout le monde fait une campagne pro anti-gluten, anti-lactose. En fait, moi, c'est vraiment ce que j'explique. Le problème, c'est pas le gluten ni le lactose. Le problème, c'est comment est-ce qu'on fabrique nos produits aujourd'hui. Le blé, notamment, les blés ont tellement été modifiés depuis 50 ans qu'aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle boulangerie, pâtisserie, c'est plus du tout du pain artisanal fait maison. C'est bourré, effectivement. Il y a des quantités de gluten qui sont plus du tout tolérées et les gens à force de mettre n'importe quoi dans leur tube digestif, de venir absorber des choses toxiques, vont commencer par dégrader leur muqueuse intestinale et le microbiote intestinal. Et une fois que ce microbiote est à l'envers, le vrai problème, c'est que c'est très compliqué de revenir en arrière.
Jimmy ?
Je suis convaincu de votre discours et pour moi, l'aliment, c'est les médicaments de demain. En revanche, on est d'accord que vous ne conseillez pas aux gens qui souffrent de maladies, de Crohn ou autres inflammatoires, d'arrêter leur traitement et de suivre le régime. Il faut qu'ils continuent à prendre leurs médicaments et puis derrière, peut-être améliorer leur confort. D'ailleurs, vous prenez plus de traitement, c'est fini ?
Non, moi, je ne prends plus de traitement depuis des années. J'ai pris une décision il y a très longtemps. Encore une fois, je suis allée très vite dans ma décision et j'ai tout pris en main à 100%. Je ne dis surtout pas aux gens d'arrêter leur traitement. Je leur dis en tout cas, par contre, et ça c'est très important, d'arrêter d'être à côté, de passer à côté de leur maladie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui suivent des traitements, qui souffrent, qui laissent finalement le médecin gérer pour eux, mais qui ne veulent pas trop savoir ce qui se joue. Or, je crois qu'il est vraiment capital de comprendre ce qui se joue dans leur corps, de mieux appréhender pour avoir moins peur. Parce que mon problème aujourd'hui, et le seul problème que j'ai moi avec la médecine, c'est que j'ai l'impression qu'on enferme le patient dans un système où on lui dit « tu ne peux rien faire, tu ne guériras pas,
et prends
tel traitement et ne bouge pas à côté ». Or, pour moi, c'est complètement aberrant et je suis absolument convaincue qu'on peut se soigner autrement. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le faire. Il y a beaucoup de Lyme, d'endométriose, d'arthrite. On est très, très nombreux aujourd'hui à témoigner, à partager ensemble sur des groupes, à avoir évolué et à se soigner.
C'est l'auto-guérison avec l'alimentation et le mode de vie.
Exactement, il n'y a rien de magique. Hein.
C'est justement,
c'est
comme
travail.
Ça que vous l'expliquez, votre maladie, c'est, enfin, votre guérison, je veux dire, de cette maladie. Parce qu'en fait, en changeant votre alimentation et toute votre vie, finalement, vous avez modifié ce microbiote, c'est ça ? C'est comme ça que vous l'expliquez,
alors,
physiologiquement, la guérison ?
Oui, on peut penser, mon médecin, mon gastro-entérologue, peut penser qu'on aurait réussi à terme à modifier effectivement la flore intestinale et donc à agir à temps et puis à retrouver ce qui l'explique, un vrai équilibre. Mais j'ai travaillé sur tous les piliers, le sommeil, le mode de vie,
l'activité,
le stress, etc.,
physique.
L'activité physique, pour vraiment faire renforcer. Donc ça a été un long cheminement.
Un dernier message peut-être pour les gens qui nous écoutent ou les nouveaux diagnostiqués de maladie de Crohn, ils peuvent faire comme vous, ils peuvent y arriver ?
Bien sûr, ils peuvent faire comme moi. Bien
c'est
sûr, je suis absolument convaincue et ils peuvent faire comme moi. Et en tout cas, s'ils n'ont jamais entendu parler d'alimentation et qu'ils sont encore en train de douter, je les invite vraiment, vraiment à me suivre et à entrer en contact avec moi.
Merci beaucoup Jeanne Demier d'être venue sur notre plateau pour raconter votre combat gagné contre la maladie. Je rappelle le titre de votre livre, Pour en finir avec Crohn, chez Flammarion. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé aux TROD. Ce sont les tests rapides de diagnostic du VIH. On fera le point sur ce dispositif de dépistage. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle des TROD. Vous savez-vous ce que c'est ? En fait, c'est un test rapide de dépistage du VIH. Mais comment cela fonctionne concrètement ? Benjamin Lévesque, notre reporter, a été vous donner la parole sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
Une maladie de la langue qui fait qu'on n'arrive pas à prononcer les mots comme on veut, la diction est peut-être altérée.
C'est une abréviation pour quelque chose.
On se croirait chez Ikea.
C'est pour faire un dépistage contre, pour le sida.
Ah, c'est celui avec au bout du doigt.
C'est un test rapide du VIH. Et ça permet de juste, grâce à une piqûre du doigt, de détecter le virus ou non.
Bah, il faut aller dans un centre de dépistage.
Si on y vient sur rendez-vous, déjà, il faut un peu attendre, mais en une heure, on a nos résultats, quoi.
J'en vois surtout dans les universités ou les endroits que les jeunes fréquentent.
Je dirais qu'il est fiable à 60%. Il faut que ce soit fait 3 mois après le rapport non protégé, parce que sinon, c'est pas détectable.
Ça nous donne peut-être un premier avis qu'il faut peut-être conforter dans un laboratoire ultérieurement.
Je crois que c'est uniquement le VIH, parce que pour les autres, il m'a dit d'aller faire une prise de sang.
Bah écoutez, c'est vrai qu'on a un micro-trottoir, Jimmy et moi, on est en train de se dire qu'il y a avec des gens qui connaissent quand même pas mal le truc.
C'est rare,
hein,
ils connaissent
c'est
très
vrai.
Bien, avec des informations pertinentes, surtout sur des questions assez techniques.
C'est vrai, c'est
parce
vrai.
Parce que pour le coup, ça ne s'invente pas, ce n'est pas de la culture générale, c'est
une les Français,
vraie connaissance.
En tout cas, interrogés par Benjamin Lévesque sur ce coup-ci,
ils sont
assez brillants. Alors Jimmy, un TROD, pour ceux qui ne le sauraient pas quand même, c'est quoi et comment ça se passe ce dépistage ?
Oui, vous l'avez dit Mélanie, c'est un test de dépistage rapide du VIH qui justement permet d'avoir un diagnostic en moins de 30 minutes. On prélève une goutte de sang au niveau du doigt, comme quand on fait une petite piqûre pour le dextro, pour la glycémie, et on met cette goutte de sang en contact avec des solutions afin de détecter ou non la présence d'anticorps dirigés contre le VIH, responsable justement du sida. Ce résultat, je l'ai dit, il est assez rapide, ça dépend des tests. Il faut entre 2 et 30 minutes pour l'avoir. Et il est plutôt fiable, il y a plusieurs marques qui existent et disponibles sur le marché.
D'accord. Alors, est-ce que c'est vraiment fiable ? Parce qu'on dit, bon, rapide, ça c'est super, mais il est sûr, aussi sûr que d'autres tests, genre la prise de sang qu'on connaît habituellement ?
Oui, il est fiable s'il est réalisé dans de bonnes conditions. Une auditrice disait que justement, il fallait ne pas avoir de rapport sexuel à risque dans les 12 semaines, c'est-à-dire dans les 3 mois qui précèdent le test. Si jamais vous avez eu un rapport sexuel à risque durant cet intervalle, c'est-à-dire moins de 3 mois, et bien dans ces cas-là, mieux vaut faire une prise de sang pour que le test soit plus fiable. Et à ce moment-là, le délai requis est de 6 semaines.
C'est-à-dire pour le test ELISA qu'on appelle, hein, c'est bon,
le test,
c'est pas connu, mais c'est la prise de sang en laboratoire.
Donc, si vous n'avez pas eu de rapport à risque durant les 3 mois précédents, le test marche. Sinon, c'est le test qu'on dit ELISA. Et là, il faut 6 semaines sans rapport à risque pour que le résultat soit interprétable, c'est-à-dire le temps que la maladie se déclare éventuellement entre le moment où vous avez fait l'exposition et le moment où on la détecte.
Très bien. Alors, si le test est positif, malheureusement, il se passe quoi ?
Alors, ce test ne permet pas de faire de diagnostic formel. Si ce test devient positif, alors on ne fait pas l'autruche. On ne se dit pas « Oh là là, c'est une erreur, on passe à autre chose, on attendra ». Ça ne sert à rien d'en faire un deuxième.
Quand même, hein,
mais... Il est fiable, mais du coup, il faut le confirmer par une prise de sang, donc un vrai test sanguin. Dans ces cas-là, vous avez deux possibilités. Soit vous allez voir votre médecin généraliste et il vous fera une prescription. Soit vous pouvez aussi
pour aller
vous
en
rendre...
laboratoire, hein, c'est ça, un
exactement,
classique.
Exactement,
hein,
laboratoire. Ouais. Et d'ailleurs, dans certaines communes, on peut le faire gratuitement
c'est vrai, sans
et sans ordonnance.
Ordonnance. C'est vrai, il y a quelques
c'est
communes test, Île-de-France,
à Paris,
crois,
c'est valable,
et
on le fait. Ouais. C'est, ça a été mis en place notamment par la municipalité d'Anne Hidalgo. Et on peut aussi se rendre dans les centres de dépistage.
Les Cégides.
Exactement, les Cégides, qui permettent de dépister notamment le VIH, mais d'autres pathologies. Et à ce moment-là, on sait s'il y a quelque chose. Et puis derrière, la cascade d'examens complémentaires pour voir où est-ce que vous en êtes.
Et démarrer surtout très vite un traitement hein, pour ralentir, voire bloquer l'évolution du VIH. Donc, que ça n'évolue pas vers la maladie SIDA. Alors, en cas de résultat positif, pour aussi, évidemment, être informé, soutenu, en contactant par exemple SIDA Info Service au 0800 840 800. Et Jimmy, d'ailleurs, où est-ce qu'on peut réaliser un TROD, justement ?
Alors, certains Cégides, les centres de dépistage en proposent, ils sont réalisés par un professionnel de santé. Ou alors, certaines associations qui sont habilitées à le pratiquer justement ces tests sur des publics qu'on dit particuliers, donc les homosexuels, les bisexuels, les migrants, les personnes qui ont un travail précaire, notamment les travailleuses du sexe. Et à ce moment-là, on peut aussi faire le dépistage d'autres pathologies parce qu'on parle du VIH, mais il n'y a pas que le VIH. Il y a aussi l'hépatite C, l'hépatite B et puis surtout une co-infection possible entre le virus de l'hépatite C et le VIH et dépister d'autres infections sexuellement transmissibles. À ce moment-là, vous pouvez aussi faire des tests pour d'autres pathologies et puis surtout des conseils de prévention. La meilleure des traitements, c'est la prévention. Utilisez des capotes.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question des jeunes femmes qui peuvent parfois appréhender leur premier rapport sexuel et surtout les douleurs que cela peut engendrer. Mais d'abord, on écoute de la musique avec Lost on You de la chanteuse américaine LP.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui on parle de Noémie, qui a 19 ans. Noémie, elle est un petit peu inquiète, elle va bientôt avoir un premier rapport sexuel. Je vous lis sa question. Je suis vierge, Catherine, et crains la première pénétration. Je me dis qu'il me faudrait tomber sur un partenaire qui a un pénis de petite taille pour faire doucement le chemin, ce qui bien sûr est ingérable. J'en ai bien conscience. Qu'en pensez-vous ? Alors, Catherine, l'inquiétude de Noémie, d'abord, elle est classique, on est d'accord. Il y a la plupart des jeunes filles, avant un premier rapport sexuel, elles ont peur d'avoir mal. C'est une inquiétude assez classique, non ?
Bien sûr, c'est tout à fait normal. Parce qu'elles ont l'idée qu'elles ont un corps encore de petite qui va devoir se faire pour un corps de grande, en quelque sorte, pénétré et pénétrable. Et que donc, évidemment, il va falloir ouvrir tout cela avec une idée toujours d'un hymen qui pourrait être percé douloureusement, de sang, de douleur. Enfin, on a bercé quand même des siècles d'histoire qui nous ont bercé de l'idée d'une première fois douloureuse, qui d'ailleurs, quand elle ne l'est pas, on crie au scandale.
Pas, ça fait pas toujours mal, en fait. Hein,
mais
c'est
bien
ça.
Sûr que non. Non seulement ça fait pas mal, dans les meilleures conditions, c'est-à-dire dans des conditions de désir, donc d'excitation, donc de lubrification, ça ne fait non seulement pas mal, et en plus, on perd pas de sang.
Jimmy ?
Et puis, elle espère ce jour-là avoir un homme qui aurait un pénis de petite taille, mais est-ce que ça a vraiment un impact, un lien entre taille du pénis et douleur ?
Non, parce que effectivement, les douleurs, ce qu'on appelle la dyspareunie, c'est quand le vagin est soit ou pas lubrifié, et du coup, l'inquiétude de l'homme, l'idée qu'il puisse perdre son érection, fait qu'il veut absolument rentrer vite. Du coup, comme elle n'est pas suffisamment lubrifiée, eh bien ça embarque les grandes lèvres avec les petites lèvres, tout ça se fait,
et ça
fait mal, puisque ça frotte, évidemment, tandis que quand c'est lubrifié, tout ça glisse très naturellement.
Au moment où l'hymen se perd, ça peut faire mal quand même, par contre, il ne faut pas non plus mentir à Noémie, elle peut avoir quelques douleurs, mais il ne faut pas qu'elle s'inquiète outre mesure.
Non, fondamentalement non. Je crois qu'il faut arrêter avec ces histoires. Dans la mesure, à moins d'avoir une anomalie vers des adhérences, des choses comme ça, là, en réalité, la pénétration n'est pas douloureuse. Sortons de ces idées qui ont bercé toutes les jeunes filles pour qu'elle ne fasse pas l'amour avant le mariage, pour que soit dit qu'il y avait preuve à l'appui, leur obéissance à la virginité ou non. La réalité, c'est que quand une femme est tout à fait tranquille, tout à fait lubrifiée, tout à fait excitée, eh bien, et que évidemment elle n'a pas en face d'elle un partenaire qui fait tout et n'importe quoi, avec trop d'inquiétude lui-même, qui fait que du coup il la pénètre brusquement selon son rythme à lui, à aucun moment il est question de douleur potentielle ou de perte de sang d'ailleurs, puisque c'est bien sûr qu'il y a, c'est très vascularisé, donc évidemment que s'il y a une petite blessure, une petite dans cette pénétration, ça fait saigner, mais sinon il n'y a pas de raison d'avoir mal du tout. Et c'est pas un petit ou un gros pénis qui va changer l'histoire, puisque il faut bien rappeler que un vagin d'une femme qui a déjà fait l'amour ou d'une femme qui n'a pas fait l'amour est allé au repos à tout petit, les parois se touchent et va pouvoir s'étendre et vers la profondeur et vers la largeur en fonction de la taille de ce pénis là, qu'il soit petit ou gros, grand, long, mince, etc.
Jimmy.
Et puis surtout lors de ce premier rapport, c'est peut-être surtout que son compagnon soit à l'écoute, tendre et gentil pour que ce soit pas douloureux, parce qu'au contraire, s'il est un peu brusque, là, la douleur peut survenir.
Oui, parce que souvent, les femmes ont mal parce qu'elles ne se permettent...
Plus qu'un petit pénis, vaut mieux qu'elles cherchent un mec gentil, quoi, en fait, hein, surtout.
Exactement. Ouais, en fait, elles ont souvent mal parce qu'elles se soumettent au désir de l'homme, donc au désir du rythme de l'homme. Elles ont souvent mal aussi parce qu'elles estiment qu'elles ne savent pas et que lui va savoir. Nombre de jeunes femmes qui me disent « Mais il faut que je rencontre quelqu'un qui a déjà eu des expériences sexuelles pour qu'il sache me pénétrer, alors que c'est leur corps. » Donc moi, ce que je dirais, c'est plutôt que de chercher le casting de l'homme avec un petit pénis ou un pénis fin, c'est plutôt se dire que faire ami-ami avec son propre sexe, comprendre comment il est fait, peut-être avoir observé la capacité qu'il a de s'ouvrir à la pénétration de son propre doigt, si la pudeur ne l'empêche pas, sinon c'est pas grave. Mais en tout cas, se dire que c'est vers mon désir que je vais, c'est moi qui m'ouvre à l'autre et non l'autre qui me force à m'ouvrir. Et c'est ça qui est important dans la sexualité. Parce que c'est dans cet oubli que la femme se fait d'elle-même au bénéfice de « je suis désirable et je vais lui prouver que je suis une vraie femme en étant pénétrée par lui selon ses codes », que là se fait les douleurs.
Merci beaucoup,
se font les douleurs, pardon.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans son rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.